Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Nous sortons d'une semaine particulièrement chargée en concerts de toutes sortes, tous très intéressants, chacun dans leur genre, et je tiens à souligner la chance qui est la nôtre d'avoir des propositions aussi variées et de grande qualité à Toulouse et dans notre région. La semaine en cours va être moins intense, le temps de souffler un peu avant une fin de mois qui, elle, sera de nouveau très dense. Il y a notamment le week-end des 25 et 26 novembre au Palais Niel, la 8e édition du festival Musique au Palais. Et pour en parler et vous présenter sa programmation, j'ai invité le président et directeur artistique de ce bel événement, Serge Krichewski, également oboïste de l'Orchestre National du Capitole et chef de l'orchestre en harmonie. Il est accompagné de notre ami Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Tout de suite, avec les deux Serge, nous allons revenir sur l'actualité musicale récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bonjour et bienvenue à tous les deux. Ravi de vous voir réunis pour ce numéro. Avant de revenir sur la belle actualité de la semaine dernière, nous devons hélas ouvrir cette rubrique par un carnet noir. Nous avons appris juste avant notre précédent numéro la mort de François Laurent, ex-flûtiste solo de l'Orchestre National du Capitole et membre fondateur des Clés de Saint-Pierre, entre autres avec vous Serge Krichewski. Il a été longtemps votre collègue à l'Orchestre du Capitole. L'annonce de son décès a été accueillie avec énormément de tristesse, bien sûr, dans le milieu musical toulousain et même au-delà, parce que François Laurent était très apprécié en tant que personne et très admiré aussi en tant que musicien. On peut dire qu'il aura marqué l'histoire de l'orchestre, qu'il aura même marqué son temps à Toulouse.
Oui, parce qu'effectivement, en plus des musiciens qui le connaissaient personnellement et qui travaillaient avec lui, il a connu un très grand nombre de personnes à Toulouse. Il était une personne extrêmement sociable et chaleureuse et qui avait des centres d'intérêt dans beaucoup de milieux différents. Donc il n'était pas du tout rare de le voir, par exemple, au cours d'un trajet en avion, se lier et puis à la fin du trajet, commencer à parler avec les commandants de bord, ou bien il avait des tas de cordes à son arc pour pouvoir entrer en communication, et du coup son départ touche énormément de monde, c'est absolument certain. Une grande tristesse qui nous a vraiment atteint quand on a appris cette nouvelle. Alors malheureusement, François, ces dernières années, avait dû se battre avec plusieurs maladies et il était, ces derniers temps en particulier, vraiment affaibli. Alors, on n'avait pas des nouvelles forcément les plus précises, mais voilà, c'est vrai qu'on garde tous un souvenir très éclatant. François, entre les années, je dirais, peut-être 85, 90 et 2010, en tout cas, absolument, c'est une grande personnalité de la vie musicale toulousaine.
Et donc, il avait participé à la fondation des Clés de Saint-Pierre. Alors, il y avait vous, il y avait qui aussi en dehors de François Laurent ?
Il y avait également Gaël Touvenin, qui a été très proche de lui, avec son mari Raphaël, toute leur carrière. Et il y avait également Christophe de Varumez, Philippe Tribault, Sandrine Tilly. Au début, plus ou moins, après Florence Fourcassier nous a rejoints. Et puis, tout le monde a trouvé sa place. Mais il faut dire que François, en dehors de ses capacités d'organisateur et cette capacité de donner une impulsion, une énergie dans beaucoup de situations, avait en plus un réseau de connaissances. Il avait, si j'ose dire, des boutons sur lesquels appuyer, des personnes à contacter, très souvent des solutions quand on avait un problème. Je ne sais pas, je ne connais peut-être pas suffisamment bien sa vie à côté de l'orchestre, mais la saison des Clés de Saint-Pierre est quand même une de ses plus belles réussites, indéniablement. Il s'en est tenu un tout petit peu à l'écart assez récemment, enfin assez tardivement. Il y a beaucoup joué, et puis il organisait, il était toujours présent dans le bureau, dans le CA, mais voilà.
Et puis c'était un merveilleux flûtiste quand même.
Évidemment, évidemment. Alors ça, on n'en parle pas, mais c'est pour commencer comme ça qu'on l'appréciait, et puis une solidité impressionnante. En tout cas, certainement, il a marqué aussi à travers tous les enregistrements qu'on a, et puis tous les concerts qu'il a pu faire en plus de l'orchestre.
Oui, Serge.
Oui, alors il y a une date incroyable, 1982, puisque c'est l'année où il est sorti du Conservatoire National supérieur de musique de Paris, où il était dans la classe de Jean-Pierre Rampal, un célèbre flûtiste, évidemment. Et c'est l'année où il a été nommé flûte solo à l'orchestre du Capitole par Michel Plasson. Donc c'est une année importante pour lui. Lui qui avait tout de même débuté sa carrière en soliste à l'âge de 17 ans à la salle Pleyel avec l'orchestre philharmonique de Radio France. C'est vraiment une carrière extraordinaire qui a été la sienne.
41 ans à l'Orchestre National du Capitole, 1982-2023, vous avez assisté à son départ en retraite,
Malheureusement, sa retraite aura été bien courte, mais il venait tout juste d'arrêter l'orchestre parce qu'il avait aussi des douleurs qui commençaient à le gêner pour jouer. Et ça a dû être un passage très difficile.
Pour lui, bien sûr. Eh bien, le meilleur hommage que l'on puisse rendre à François Laurent, la meilleure façon d'honorer sa mémoire, c'est de le réécouter, de réécouter sa flûte magnifique, par exemple au tout début du prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy, dans une version fameuse enregistrée par l'Orchestre National du Capitole. Vous en parliez, Serge Krichevski. C'était sous la direction de Michel Plasson en 1987-1988. Le début superbe du prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy dans la version enregistrée par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Michel Plasson en 1987-1988, un CD paru sous le label EMI avec le son et les couleurs de la flûte de François Laurent. Ses obsèques ont eu lieu hier, lundi, en l'église de Villefranche de Lauragais, en présence d'une assistance nombreuse et de ses amis musiciens, anciens collègues de l'Orchestre National du Capitole et de sa famille, bien sûr. On pensera beaucoup à ses filles Mélanie et Elodie qui font toutes les deux aussi de magnifiques carrières de musiciennes. La vie et la musique continuent et François Laurent aurait été le premier à s'en réjouir. Mardi dernier à Saint-Pierre-des-Cuisines, c'était le concert d'ouverture de la saison 23-24 des Arts Renaissants avec le duo plutôt atypique formé par la jeune trompettiste Lucienne Renaud-Davary qui faisait ses débuts à Toulouse à cette occasion avec l'accordéoniste Félicien Bru qu'on avait découvert l'an passé au même endroit mais c'était aux côtés de Thibaut Garcia. Ils ont donné un programme conçu autour du thème de l'amour qui a beaucoup plu au public, Serge Chosy.
Ah oui, tout à fait. Évidemment, c'est une association un peu originale, enfin, que l'on n'imaginait pas et qui fonctionne parfaitement bien. C'est vraiment incroyable. Il faut savoir quand même que cette jeune trompettiste, du haut de ses 17 ans, a remporté en 2016 une victoire de la musique classique en catégorie révélation soliste instrumentale. Et effectivement, alors je me suis permis d'écrire qu'elle jouait de la trompette comme un pommier fait des pommes. Avec un naturel, ses notes sortent avec aisance absolue. Elle est très virtuose et en même temps très soucieuse des nuances.
Très musicienne.
Très musicienne. Donc vraiment, ça a été pour ma part une belle découverte. Je la connaissais par le disque, mais c'est différent. Là, et donc, elle était associée aussi à un grand musicien qui est Félicien Bru, qui est donc accordéoniste, mais vraiment qui fait chanter et parler son accordéon de manière incroyable, hein, avec lui aussi beaucoup de nuances. Et on a l'impression que cet accordéon est à la fois un orchestre, un orgue et un piano. On pourrait rajouter un piano à bretelles, mais bon, c'est vraiment une association qui fonctionne parfaitement bien, avec un programme très varié, puisqu'il y a une quinzaine d'œuvres qui se sont succédées, avec des pièces d'Astor Piazzolla, d'un certain que je ne connaissais pas, Karl Heune, puis Raphaël Mendes, puis Astor Piazzolla de nouveau, puis du Michel Legrand, du Leonard Bernstein, du Domi et Maureen, hein, et Richard Galliano, bien sûr. Et puis un compositeur qui était présent le soir du concert et qui a composé pour eux, pour leur duo, une œuvre. Alors ce compositeur s'appelle Fabien Waxman et donc il a composé une œuvre assez amusante puisque c'était présenté avec beaucoup d'humour par Félicien Bru qui s'appelle Perfect Match et qui est faite pour se moquer des sites de rencontres, des sites internet de rencontres qui réalisent des perfect match, donc comme on dit dans ce milieu, entre personnes qui recherchent...
Alors, je ne sais pas si c'est pour se moquer, mais c'est pour tourner un peu en dérision. Bon.
Oui. Donc vraiment... un programme très intéressant, très varié, avec cette association. Et vraiment une association, l'un ne domine pas l'autre. C'était
très équilibré,
en parfait équilibre.
En effet,
oui. Donc ça a été très applaudi, évidemment, mais vraiment très applaudi, on peut dire. Hein, au point qu'il y a eu tout de même deux bis. Avec tout d'abord la très virtuose Danza de Rossini, hein, donc, que l'on connaît.
Tarentelle.
Plus. Ouais, voilà, une tarentelle, mais la Danza, donc, qui est intitulée La Danza. Et puis une évocation de la célèbre chanson réaliste « Mon amant de Saint-Jean » qui est venu là pour clôturer cette soirée qui a eu vraiment un énorme succès.
Mais il retourne aux musettes parce que c'est,
ah bah oui,
c'est
oui,
là
oui.
Qu'a commencé Félicien Bru. Il accompagnait ses parents dans les bals là en Auvergne, dans son Auvergne natale.
Oui.
Il aime le rappeler d'ailleurs hein, qu'il est originaire
d'Auvergne.
Ah,
il y a insisté même hein, sur cette origine.
Il a raison parce que c'est une belle région. Petit souvenir de ce premier concert de la saison des Arts Renaissants avec cette version de Tango pour Claude de Richard Galliano, interprétée par Lucienne Renaud-Davary et Félicien Bru, accompagné ici par un quatuor à cordes. Tango pour Claude de Richard Galliano, interprété par Lucienne Renaud-Davary et Félicien Bru, accompagné ici par le quatuor Elmire. Prochain concert des Arts Renaissants le mardi 12 décembre à 20h à l'église Saint-Jérôme avec les chœurs de chambre Mélisme et Dulci Jubilo pour un programme Brahms, Mendelssohn, Marceau, Gibert et Bach. Retour maintenant sur le concert donné le jeudi dernier à la Halle aux Grains par l'Orchestre National du Capitole. C'était sous la direction du chef américain Joseph Svensson. Le programme de cette soirée était assez singulier, en tout cas concernant les deux premières œuvres jouées. Les deux Serges étaient présents, l'un dans le public et l'autre au sein de l'orchestre. Alors Serge Chaudy, je vais vous demander d'abord vos impressions de spectateur, si l'on peut dire d'auditeur.
Oui, d'auditeur. Eh bien, écoutez, d'abord, il faut quand même rappeler que Joseph Svensson, c'est un grand habitué, un ami de l'orchestre, qui a tissé des liens avec les musiciens depuis des années, hein, peut-être décennies. Enfin, donc, c'est quelqu'un qui est toujours très bien accueilli, très bien reçu à Toulouse, qui possède un charisme particulier, un enthousiasme, une sensibilité. Et donc, il était réconfortant de constater qu'il ne se cantonne pas dans un répertoire, puisqu'il a beaucoup dirigé Mahler, Bruckner. Bon, il avait même créé une pièce l'année dernière qu'il a donnée à Toulouse autour des quatre opéras du Ring du Nibelung de Wagner. Bon, il est en même temps violoniste et compositeur, donc c'est vraiment une somme d'activités musicales impressionnantes. Et donc, il a commencé le programme de cette soirée par une pièce contemporaine composée par une jeune compositrice, Camille Pépin, qui est née à Amiens en 1990, donc vous voyez, elle est toute jeune, hein, et c'est une pièce tout à fait particulière, avec un titre mystérieux, puisque c'est l'Agnakéa, qui signifie, alors on peut faire confiance au traducteur, « Paradis céleste incommensurable » en hawaïen. Voilà, c'est très particulier. Alors c'est une pièce qui est inspirée d'un super amas de galaxies qui contient notre Voie lactée, une œuvre cosmique en quelque sorte, hein. Et c'est effectivement comme cela qu'on la reçoit. C'est une œuvre qui, dès le début, est traversée d'une sorte de pulsation constante, d'une vibration organique qui rappelle tout de même nettement des musiques comme celle de John Adams ou Steve Reich, le minimaliste américain, oui, et répétitif, mais en même temps avec une tonalité impressionniste donc, et des couleurs, beaucoup de couleurs.
Elle revendique c'est les influences de Ravel et Debussy. Hein,
oui, aussi, exactement. Donc c'est une pièce qui a été très bien accueillie par le public, donc pièce contemporaine, mais vraiment qui s'écoute avec beaucoup d'aisance et de facilité. Et puis ensuite, nous avons eu droit au double concerto pour violon, violoncelle et orchestre de Brahms, qui n'est pas donné très souvent, hein, il faut le reconnaître, et le regretter, puisque c'est une œuvre magnifique. C'est la dernière œuvre concertante de Brahms. Et là, les solistes sont particuliers. Alors, le violon solo, c'est un grand habitué.
Lui, on connaît bien.
Christy Jesse, que l'on connaît, apprécie, aime bien ici, le super soliste de l'Orchestre National du Capitole. Et il était confronté, si l'on peut dire, ou associé à Jonathan Svensson, qui est le fils de, évidemment, de Joseph, et qui n'a pas suivi son père dans le choix de l'instrument, puisque du violon du père, il est passé au violoncelle. Et donc, ils ont donné ce magnifique concerto avec beaucoup d'implications et avec une différence d'approche des deux solistes. Autant Christy Gessy est extrêmement précis, lumineux et acéré dans son jeu et sensible, autant le violoncelliste est généreux, passionné, un peu comme son père en quelque sorte. Hein. Bonson ne saurait mentir. Donc on a eu une très belle exécution de ce concerto et un bel équilibre avec l'orchestre. Hein. Vraiment très très bien. Et enfin, la fin du concert, la deuxième partie, c'était, alors ça c'est une œuvre beaucoup plus connue, la sixième et dernière symphonie de Tchaïkovski, la fameuse symphonie pathétique, le nom ayant été suggéré par le frère de Tchaïkovski, Modeste. Hein. Là aussi, bon, il a impliqué l'orchestre, le chef, de manière très forte, avec cette espèce d'ombre tragique qui plane sur toute l'œuvre, hein, et avec une agitation par moments, une fièvre, une menace, et notamment dans l'Allegro molto vivace, le troisième mouvement, ce qui a provoqué, mais c'est presque toujours le cas, une salve d'applaudissements enthousiastes et prématurés.
De plus
évidemment.
En plus, le public applaudit entre les mouvements.
Du public, oui, mais là, ça arrive très souvent, je dois dire.
Et sinon, vous êtes toujours aussi heureux de jouer sous la direction de José
oui,
Svensson,
oui,
je
oui,
pense.
Oui, c'est un chef que j'aime beaucoup, effectivement, qui maintenant vient depuis peut-être plus de 20 ans.
Oui, il y a longtemps qu'on le voit.
Très, très régulièrement. Et alors je dois encore augmenter les informations sur son répertoire qui est extrêmement vaste. Alors Serge Chosy a parlé de ses différents talents, hein, donc de, bien sûr, violoniste, excellent violoniste et compositeur, mais il a un répertoire. Bon, on a joué les concertos de Mozart avec lui au violon sous sa direction, on a fait beaucoup de Schumann, on a fait des arrangements de mélodies de Clara Schumann qu'il avait faites pour orchestre, on a fait du Nielsen, on a fait du Sibelius, on a fait évidemment Bruckner, Mahler, Beethoven aussi.
Oui, voilà. Très très ouvert.
Très très large. Du Mozart aussi, symphonie. Ouais.
Pour revenir une dernière fois sur cette sixième symphonie pathétique de Tchaïkovski, nous allons écouter le début du troisième mouvement Allegro molto vivace dans une version de l'orchestre symphonique du Mariinsky dirigé par Valérie Gergiev. Le troisième mouvement Allegro molto vivace de la sixième symphonie pathétique de Tchaïkovski dans une version de l'orchestre symphonique du Mariinsky sous la direction de Valérie Gergiev. Pour terminer cette première partie d'émission, Serge, je voulais dire qu'à la fin, il y a eu un silence impressionnant.
Ah oui, ben oui. Alors, autant le public avait applaudi de manière fracassante après le troisième mouvement, après le quatrième, qui s'achève dans le silence de la mort, hein, faut le dire.
Oui, parce que...
Eh bien le public est resté médusé et n'a pas osé applaudir avant, mais je ne sais pas, peut-être 20 secondes. Enfin, c'était incroyable. Hein, un silence qui a duré, silence d'éternité en quelque sorte.
Eh bien, on va terminer là-dessus. Nous, on ne va pas faire silence, mais pour l'instant, on se retrouve dans quelques secondes pour l'agenda de Mélomanie, toujours avec Serge Chosy et Serge Krichewski. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec les deux Serges, Serge Chauzy et Serge Krichewski, avec qui nous allons maintenant nous plonger dans la programmation de la 8e édition de Musique au Palais. Elle a lieu à Toulouse, au Palais Niel, le week-end des 25 et 26 novembre, avec, comme le veut la formule instaurée par Emmanuelle Sirat, la fondatrice du festival, deux après-midi de 3 concerts chacune, le samedi et le dimanche. Autre tradition, il y a une thématique générale comme chaque année qui sert de trame à la programmation. Et pour cette 8e édition, Serge Krichewski, vous avez choisi la Belle Époque et la musique qui se jouait durant cette période. Je vais vous demander d'abord de nous la resituer dans le temps parce que je ne suis pas certain que tout le monde sache exactement quand c'était la Belle Époque.
Alors, les historiens eux-mêmes sont partagés sur la délimitation précise. Là où ils sont globalement d'accord et où tout le monde s'accorde, c'est qu'elle s'est terminée avec la guerre de 14-1914. Donc, voilà.
Mais avec le début de la guerre,
voilà,
d'ailleurs.
Et donc, il y a, en termes artistiques, il y a l'année 1913 qui est très importante, qui est déjà fracassante esthétiquement. Mais en tout cas...
Sacre du printemps.
Voilà. Mais avant ça, certains la font commencer en 1870, 75, 80, 90, plus ou moins tard, avant 1900. Bon, il y a beaucoup de points de repère, c'est une période d'une richesse extrême dans tous les domaines, mais artistique en particulier, en France en particulier. Nous avons choisi globalement 1885 ou 1875, même 1915, donc c'est une période large. Et il y a en gros deux volets. Le pivot, c'est 1900, évidemment, aussi avec l'exposition universelle très, très...
À Paris.
Qui a succès considérable en Europe, donc l'exposition à Paris. Donc on est à peu près au milieu à ce moment-là, quoi, 1880-1915.
Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une époque où Paris est la grande capitale culturelle de l'Europe et même du monde, hein, je pense que c'est pas exagéré de le dire. C'est le moment aussi, il y a beaucoup de révolution esthétique. Hein. Le cubisme va apparaître dans les 10 premières années du XXe siècle. On a Soutine, Picasso qui sont à Paris, on a l'expressionnisme. Et puis, bon, ben, la musique, la révolution, l'atonalisme va arriver à peu près vers la fin de cette période. Donc, effectivement, il se passe beaucoup de choses. Alors, ce qui est intéressant aussi, le festival a lieu au Palais Niel. Et ce grand salon du Palais Niel, je trouve, ça rappelle bien ce qu'étaient les salons parisiens à l'époque.
Oui, oui, absolument. Le Palais Niel a été terminé en 1869. Le maréchal Niel n'y a jamais pris ses fonctions, mais son successeur y a habité. En partir de 1870, alors évidemment, il y a eu la période très difficile de la guerre franco-prussienne, la commune à Paris en tout cas, etc. Mais globalement, la France a commencé à se reconstruire et ce qu'on appelait la Belle Époque, le terme a été donné très rapidement, il a été donné en 1919, donc juste à la fin de la Première Guerre mondiale, rétrospectivement, pour faire une référence à cette période qui avait été une période de construction, de reconstruction et de fantastiques découvertes scientifiques, de changements effectivement esthétiques
et dans tous les arts. Artistique dans tous et d'émulation artistique, parce que tous les grands artistes de l'époque se retrouvaient presque tous à Paris.
Absolument, où ils passaient, où se sentaient obligés d'y passer. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, dans la première période, on va dire en tout cas, évidemment tout n'est pas aussi tranché, mais on a une période qui arrive, qui procède du romantisme, hein. La période qui va entre 1875, alors 75, c'est Carmen, c'est aussi la mort de Georges Bizet. Bon, il y a les écoles un peu plus sérieuses, inspirées par Wagner, il y a César Franck, il y a tous ces gens-là. Et puis, il y a progressivement, assez rapidement, l'apparition d'un goût français, Gounod, Fauré, etc., tous ces gens-là à partir de 1880, et Camille Saint-Saëns, qui procède, lui, plutôt de Mendelssohn et Schumann, qui fondent ce goût français, en particulier grâce à la mélodie. Alors la mélodie, c'est déjà Hector Berlioz, hein, avec Les Nuits d'été, toutes ces magnifiques mélodies, mais cette mélodie, cette richesse vraiment extraordinaire de tous les compositeurs français.
Je crois qu'on peut parler d'un âge d'or de la musique et du génie français.
Absolument.
En général à la Belle Époque. Et pour illustrer ce thème de la Belle Époque, vous nous avez concocté une véritable programmation de gala, moi je trouve, hein, pendant ces deux après-midi et ces 6 concerts donnés, je le rappelle, par des musiciens professionnels, mais aussi par de grands amateurs et des élèves de conservatoire. Ça commence samedi 25 novembre à 14h30 avec un programme que vous avez sous-titré « Point de repère ». Pourquoi ce titre ?
Ah bien, il se trouve que en programmant, évidemment, j'essaye de réunir les propositions des artistes auxquels j'ai pensé et à qui je souhaite donner la parole et puis la tribune. Et un petit peu naturellement, bon, les choses prennent forme. Et il se trouve que le premier concert, pour des tas de raisons, s'est mis en place autour d'une programmation avec les 4-5 grands noms de compositeurs vraiment emblématiques de cette période. Donc certains qui ont eu leur âge d'or personnel plutôt avant 1900, comme Saint-Saëns. Et Fauré, c'est plutôt vraiment à cheval. Hein,
parce à cheval, oui, parce qu'il lui reste encore beaucoup de belles choses à composer à ce moment-là.
Absolument, beaucoup à composer après. Il devient une figure très importante en étant directeur du conservatoire, etc., à Paris. Mais il y a également Claude Debussy, hein, qui a déjà écrit des pages magnifiques comme celle que vous avez fait entendre, le prélude à l'après-midi d'un faune, qui date de 1892. Et puis évidemment, après, il y a tout ce tournant du siècle et la suite jusqu'à son décès en 1918. Donc Saint-Saëns, et puis deux pièces très différentes, hein, la pavane de Fauré, l'élégie de Fauré pour violoncelle, et puis aussi deux pièces pour piano, donc, puisque Debussy a une contribution importante au répertoire pianistique.
Et il y aura le quatuor à cordes.
Alors, le quatuor à cordes, voilà, est un des points de repère. Alors, le quatuor à cordes est toujours, que ce soit déjà depuis Haydn, Mozart, Beethoven, et pendant tout le courant du 19e siècle et du 20e, et encore maintenant, est vraiment une sorte d'épreuve du feu pour les compositeurs. Hein. Debussy a considéré qu'au bout d'un quatuor à cordes, il avait quasiment tout dit, entre guillemets. Bon, il a dit beaucoup d'autres choses dans d'autres domaines, mais pour le quatuor à cordes, il ne se sentait pas de la nécessité d'en composer un second ou un troisième, comme Shostakovich, qui en a écrit 15, bon, après ça. Donc, ce quatuor, effectivement, flamboyant, extraordinaire, vraiment grande énergie, et qui ressort encore, alors là, justement, des procédés de composition un peu franquistes, hein, c'est-à-dire qu'il y a tout simplement un thème qui est énoncé au début.
Franquiste, c'est César Franck, hein, ne pas confondre
voilà,
avec
voilà,
un autre.
C'est pas QUI, c'est CKI, voilà, c'est le compositeur franco-belge César Franck, que Debussy a admiré, et puis qu'après, duquel il s'est éloigné, mais en tout cas, au moment du quatuor, il a ce procédé d'écriture qui prend un thème et qui le modifie, et qui donne une unité très grande à la totalité de l'œuvre. On appelle ça une œuvre cyclique, la forme cyclique de laquelle Debussy s'est après, disons qu'il a intériorisé tout ce qui était d'ordre cyclique et les choses se sont vues de moins en moins, même si le travail d'écriture a toujours été très très important.
Alors je vais citer les musiciens qui vont se produire lors de ce premier concert. Il y aura Benoît Chapeau, violoncelliste de l'Orchestre National du Capitole, qui va jouer l'élégie pour violoncelle. Le quatuor Notturno, dont fait partie Benoît Chapeau, avec Julie Guédon-Joly, Samuel Joly et Ying Xiu Yan. Et puis il y aura la flûtiste Leslie Richmond et Éloise Urbain et Ariel Serrat au piano pour donner un aperçu de ce programme magnifique qui présente une sorte de quintessence de la grande musique française de l'époque. Je propose que nous écoutions le très beau premier mouvement animé et dessiné du quatuor à cordes de Claude Debussy. Le premier mouvement animé décidé du quatuor à cordes de Claude Debussy dans une version du quatuor ébène. C'est donc l'œuvre qui ouvre l'édition 2023 de Musique au Palais puisqu'elle figure en première place dans le programme du premier concert du samedi à 14h30. Le concert suivant commence à 16h30 et vous l'avez intitulé « Des maîtres grands et petits », peut-être une allusion à un film de Pasolini. Vous allez d'ailleurs vous-même vous y produire en tant qu'oboïste, Serge. Qui sont cette fois-ci les compositeurs au programme? Effectivement, il y en a de très connus et d'autres qui sont beaucoup moins. Alors, il y a un autre, le quatrième grand d'époque, il y a Ravel.
Voilà, Ravel, donc, qui finalement se retrouvera dans d'autres concerts, mais peut-être pas autant qu'on aurait souhaité, mais c'est très difficile d'avoir tout. Effectivement, Ravel, donc, dans deux œuvres, hein, donc, La Pavane pour une infante défunte et Les Jeux d'eau, joués par des pianistes, alors, Ariel Syra, François Schwarzentruber, vous en avez parlé, deux pianistes amateurs d'un excellent niveau, et ils n'ont pas peur de s'attaquer à des choses très difficiles, puisqu'on verra ça le lendemain, à la même heure, il y aura un récital piano, un concert de piano, avec des œuvres vraiment aussi des années 1910. Le concert du samedi 16h30, donc effectivement, Debussy, alors on en a déjà un petit peu parlé, mais il se trouve qu'au moment de la programmation, enfin au fur et à mesure de la programmation, il y a une nécessité qui m'est apparue, progressivement et simplement, c'était de donner quand même un axe autour de ce compositeur qui est paradoxalement un compositeur qui a traversé toute cette période, exactement, mais qui a toujours voulu bousculer ce qui existait déjà. C'est-à-dire, il admirait César Franck, il s'est éloigné de César Franck, il admirait Wagner, il a eu une passion pour Parsifal, il s'est éloigné de Wagner, il a cherché à en intégrer et à en désintégrer un certain nombre de principes, et à chaque fois, pareil, tout l'académisme français aussi du 19e siècle, il s'en éloignait. Beethoven, la musique allemande en général, il s'en méfiait, pas seulement pour des raisons politiques, parce que l'époque entre la France et l'Allemagne, ça allait pas très fort.
L'anti-germanisme était
puissant
en France.
Et d'ailleurs, hein. il a même été assez loin au moment de la guerre de 14. Du coup, nous avons réussi à placer un peu de Debussy dans chaque concert. Donc, nous aurons...
La
Suite Bergamasque, qui est une pièce très importante, qui s'étale sur plusieurs années, qui comporte le célèbre Clair de Lune, qui sera joué par un jeune élève brillant, donc Louis Gay, qui est un élève du Conservatoire de Toulouse. À la suite de ça, nous jouerons des compositeurs. Il était très important de donner aussi des éclairages sur des compositeurs un peu moins, disons, de premier plan ou moins connus du grand public. Donc, en l'occurrence, Gabriel Piernier, qui a été un compositeur très, très sérieux, très solide et très délicat, hein, ami de Debussy.
C'était un grand chef d'orchestre, je crois.
Grand chef d'orchestre, hein. Absolument, dont nous jouerons une courte pièce et également...
Sérénade.
Voilà, également Benjamin Godard, compositeur mort en 1895, qui a été aussi... Alors, si vous voulez, Benjamin Godard, de même que nous avons voulu dans le premier concert donner cet équivalent un peu instrumental de la mélodie française, cette mélodie tellement particulière, tellement riche. La pièce pour hautbois sera un bel exemple, comme ça, d'une mélodie instrumentale. Et puis ensuite, Albéniz. Hein, alors, il y a évidemment ce grand pianiste, grand compositeur espagnol, à côté de Granados, à côté de cet emblème interprète extraordinaire Ricardo Vignes, qui a créé tant de...
De pièces de Ravel, entre autres.
De grands chefs-d'œuvre, et aussi de Debussy. Hein, il a créé beaucoup Ricardo Vignes, donc peut-être qu'il a été le créateur de ces Fête-Dieu.
Fête-Dieu à Séville d'Albéniz.
Voilà.
Albéniz qui a vécu à Paris très longtemps, hein,
oui. les 15 dernières années de sa vie.
Hein.
Et puis Fauré. Alors donc, François Schwarzentruber nous jouera le quatrième nocturne, je crois, pour terminer ce concert.
Eh bien, le programme de ce deuxième concert du samedi nous donne l'occasion de découvrir la musique de Benjamin Godard, dont voici Légende pastorale pour hautbois et piano. Légende pastorale pour hautbois et piano de Benjamin Godard, une pièce à découvrir en live lors du deuxième concert du samedi des Maîtres Grands et Petits, qui commence donc à 16h30, troisième et dernier concert de cette première journée de festival à 18h30, où nous allons avoir le plaisir de retrouver l'excellent pianiste François Dumont, entouré d'amis musiciens. Vous avez d'ailleurs sous-titré le programme François Dumont, concert entre amis.
Voilà, parce que le magnifique concert opus 21 d'Ernest Chausson, et ben donc il faut 6 personnes pour le jouer, et le quatuor Nocturno était tout désigné puisqu'il comporte 2 amis donc de François Dumont. Ils se sont connus à Lyon, ils se sont connus dans les conservatoires différents, et dès la venue de François Dumont en 2019 pour son récital au Palais Niel, nous avions renoué il s'était retrouvé
et projeté de l'inviter.
Voilà, exactement, nous avons imaginé que ça aurait été une très bonne chose, et donc cette chose a pu se réaliser cette année. Nous y avons associé donc Christy Guier qui est
le super
violon solo
soliste
de l'Orchestre du Capitole, qui avait fait précisément le concerto, le double de Brahms la semaine dernière, et qui fera donc la partie soliste du concert avec François, et qui jouera aussi avec lui la sonate de Debussy. Alors donc, sonate pour violon de Debussy, qui elle date de l'extrême fin de la vie de Debussy, 1917.
Voilà, on est un petit peu après la Belle Époque.
Voilà, mais ce ne sera pas le seul cas, mais en tout cas, l'important, c'est que l'esprit de la Belle Époque y soit encore et il y ait.
Alors, dans ce fameux concert opus 21 pour violon, piano et quatuor à cordes d'Ernest Chausson, il y a un mouvement célèbre parmi tous les autres, c'est la fameuse, la lumineuse sicilienne. On l'écoute maintenant. La Sicilienne, le deuxième mouvement du concert, opus 21 pour violon, piano et quatuor à cordes d'Ernest Chausson, dans une version ici du quatuor Juilliard avec Itzhak Perlman au violon et Georges Ebolet au piano. C'est donc l'une des deux œuvres avec la sonate pour violon et piano de Claude Debussy au programme du troisième concert qui conclut la journée du samedi. Concert qui a lieu à 18h30 avec François Dumont, le quatuor Nocturno et Christy Jessy. Et nous voici déjà au dimanche et au premier concert de l'après-midi du 26 novembre, donné à 15h. Comme l'an dernier, c'est la clarinette qui est à l'honneur avec le même duo qu'en 2022. Formé par Lilian Lefebvre et Vincent Martinet, qui lui va œuvrer au piano. Ce concert a été sous-titré Clarinette fin de siècle. Il s'agit donc d'œuvres de la fin du 19e, si je comprends bien.
Voilà, mais c'est-à-dire que. Alors. Autour, hein, bon, mais la Rhapsodie de Debussy qui va clôturer le concert a été écrite juste après, enfin je pense que c'est 1905 peut-être. Et par contre, la deuxième sonate de Johannes Brahms, évidemment, alors elle c'est 1894, mais c'est plutôt vers le Danube, alors c'est plus Paris, c'est une époque où, où l'Autriche et Vienne en particulier vit une période assez comparable à celle qu'il y a en France et à Paris, dans les grandes capitales, avec une grande explosion de talents. Bon, Brahms vit à Vienne depuis longtemps à ce moment-là, hein. Il est en train de terminer sa vie de compositeur, et il fait la rencontre d'un clarinettiste pour lequel il écrira quatre œuvres magnifiques, quatre chefs-d'œuvre, dont cette sonate. Donc nous nous sommes dit que c'était peut-être pas mal de la mettre à côté aussi, la Rhapsodie de Debussy, parce qu'elle est extrêmement antagoniste en termes de style. Elle est vraiment... Debussy cherchait une sorte d'improvisation continue qui ne se laisse pas du tout déceler. Brahms, au contraire, c'est des choses très construites, très classiques. Même à la fin.
Alors il y a une rareté un peu, là, une œuvre de Charles-Marie Vidor qui n'a donc pas composé que pour l'orgue.
Voilà, absolument. Ben, écoutez, non, il a écrit aussi des symphonies, il a écrit de la musique de chambre. Et c'est une pièce qui est très agréable, que les clarinettistes connaissent bien, mais il m'a paru qu'elle pouvait, alors à côté de Benjamin Godard, qui lui aussi a écrit beaucoup de musique de chambre, de Pierre Ney, donner comme ça un autre écho.
Introduction et rondo de Charles-Marie Vidor. Voici le duo Lilian Lefebvre, Vincent Martinet, qui joue ici la très jolie Rhapsodie pour clarinette et piano de Claude Debussy. La Rhapsodie pour clarinette et piano de Claude Debussy, interprétée par le duo Lilian Lefebvre-Vincent Martinet, qui ouvre donc l'après-midi du dimanche à 15h, un concert suivi à 16h30 d'un programme entièrement dédié cette fois-ci au piano seul, que vous avez intitulé « Avant-gardes et modernités ». Et oui, parce que cette période de la Belle Époque, on l'a dit tout à l'heure, a aussi donné lieu à de petites ou de grandes révolutions artistiques, y compris en musique.
Voilà, alors effectivement, après la mort de Wagner, la question de la tonalité, de son maintien, a beaucoup travaillé tous les compositeurs. Un compositeur que nous entendrons à 16h30, Arnold Schönberg, va même s'attaquer à la refonte du système tonal, en cherchant un système qui lui succède. Et nous sommes dans cet entre-deux, nous sommes dans une période où les compositeurs cherchent dans tous les sens, ceux qui d'ailleurs ont déjà beaucoup trouvé, comme Debussy. Alors nous entendrons Brouillard, un de ses préludes du livre 2 par Ariel Syrah, continue de chercher et il écrit des pages incroyables dans ses préludes. Enfin, ce sont des pages d'une modernité qui dépasse beaucoup, beaucoup encore maintenant de compositeurs. Des gens comme Jana Tchèque qui creusent leur voix, un grand compositeur tchèque. Et évidemment, les Russes également qui commencent à arriver, Alexandre Scriabine, Prokofiev, avec une œuvre de jeunesse. Et puis, alors, nous avons voulu donner un petit éclairage plus léger pour terminer ce concert avec Eric Satie, Scott Joplin, puisque c'est une époque où la musique venue des États-Unis, la musique syncopée, rythmée, commence à trouver vraiment une place, une mode, et même à s'instiller un peu dans les œuvres des compositeurs savants. Bien entendu, Debussy, tous ces gens-là, Ravel, auront été très sensibles à cette musique.
Voilà, donc il y aura aussi Arnold Schönberg, Ottorino Respighi, et tout ça va être joué par les pianistes Louis Gay, François Schwarzentruber et Ariel Syrah. Il se trouve que dans Les Brumes, la pièce de Léo Janáček a été jouée il y a quelques semaines à Toulouse par Yann Bartos lors de son concert au festival Piano Jacobin. Je vous propose d'écouter son mouvement Andantino sous les doigts du pianiste tchèque. Le moment d'Antino de Dans les brumes, la pièce de Leo Janáček, jouée ici par le pianiste tchèque Jan Bartos, c'est l'une des œuvres au menu du concert Avant-gardes et modernités, donné dimanche 26 novembre à 16h30 par Louis Gay, François Schwarzentruber et Ariel Sirat. Vous avez sans doute remarqué que depuis que nous parcourons la programmation de cette édition 2023, il n'a pas du tout été question de mélodies françaises, genre pourtant très en vogue à la Belle Époque, auquel tous les compositeurs de cette période ont consacré une partie grande ou petite de leur œuvre. Eh bien, c'est oublié et réparé à l'occasion du concert de clôture dimanche à 18h30. Et vous y avez invité deux musiciens que l'on connaît très bien à Toulouse, le baryton Philippe Estef et la pianiste Éloise Urbain. Vous avez appelé ce programme du salon au boulevard. Le salon, on comprend, mais le boulevard, pourquoi ?
Ah ben, le boulevard, c'est parce qu'en fait, il y a quand même certains airs qui seront des airs d'opérette et d'opéra comique.
Hein, boulevardier.
Donc, voilà, c'est ça. C'est le boulevard, c'est les grands boulevards hein, qui, à Paris, comportent les grands théâtres comme ça, populaires. Hein.
Et donc, il va y avoir, alors, c'est foisonnant le programme, hein, il y a vraiment beaucoup de pièces et de compositeurs qui vont être présentés.
Oui, alors on aura aussi une annexe à la composition de Carmen, la pantomime de Morales, une chose qu'on n'entend pas souvent, qui sera jouée et chantée par Philippe. Et puis, bon, Saint-Saëns, voilà, un petit peu tous les compositeurs
Gounod,
qu'on aime.
Chabrier, voilà. Bizet, donc un extrait de Carmen, Messager, André Messager,
oui,
pas un compositeur
là
qu'on
aussi,
entend très
voilà,
souvent.
Deux opérettes, Véronique, Isoline.
Gabriel Fauré, inévitable.
Grand
Debussy,
charme.
Inévitable.
Voilà.
Et Ernest Chausson.
Et donc Philippe Estef étant un homme de scène, enfin il tourne beaucoup, il fait de la musique
carrière,
baroque,
Philippe
mais
Estef, oui.
Voilà, il s'était bien aussi qu'il fasse un petit peu de chaque style.
Voilà, ben nous ferons salon pour terminer donc le dimanche 26 novembre à 16h30 avec ce concert dédié à la mélodie française. Voilà pour la programmation de la 8e édition de Musique au Palais les 25 et 26 novembre. Pendant que vous avez le micro, Serge Krichewski, très vite, vous allez pouvoir nous présenter le concert que vous donnez à la tête de l'Orchestre en Harmonie ce dimanche 19 novembre à 16h en l'église Saint-Jean-Baptiste des Sept-Deniers. Concert, vous allez accompagner la soprano Clémence Garcia et un certain Philippe Estef.
Voilà, précisément Philippe Estef que nous allons retrouver avec grand plaisir donc pour ce concert, un programme magnifique Bach Handel au profit de toutes les causes, disons l'Ukraine, les migrants, enfin c'est le Secours catholique qui va fédérer un petit peu les recettes qui seront au bon vouloir de chacun.
Voilà, entrée mais... libre et libre participation.
Absolument, absolument. Et donc deux parties, une partie Jean-Sébastien Bach, une partie Handel, les deux géants de la musique baroque allemande, avec plusieurs airs extraits de Jules César, des airs de Cléopâtre, des airs d'autres personnages, et puis la cantate Ich habe genug, cantate 82 de
Jean-Sébastien Bach.
Voilà.
Puis il y a aussi
venez
la symphonia de Bach aussi.
Il y aura
hein.
Voilà, la première symphonia de Jules César et une symphonia de la cantate 42 qui est aussi magnifique, qui met très bien en valeur les instruments avant.
Et bien voilà, tout est dit, c'est la fin de ce numéro auquel je remercie Serge Chosy et Serge Krichewski d'avoir activement participé. Je rappelle que la 8e édition du Festival Musique au Palais a lieu le week-end des 25 et 26 novembre. Deux après-midi de concerts sur la thématique de la Belle Époque. Pour réserver et acheter vos places en ligne, je vous invite à vous connecter au site www.musicopalais.org où vous trouverez également le détail de la programmation. La pianiste Anne Lebozek donne deux concerts à Toulouse, à l'hôtel d'Assesa. C'est vendredi 17 novembre à 20h et dimanche 19 novembre à 17h dans le cadre du festival Déoda de Sévrac. Elle va jouer un programme Debussy, Albéniz, Sévrac et Blanche Selva. Réservation et billetterie en ligne sur le site www.festival-deoda-2-sévrac.fr. Encore le dimanche 19 novembre, mais à 16h à l'Opéra National du Capitole, récital du grand ténor américain Michael Fabiano, accompagné par le pianiste Martin Katz. Il présente un programme de mélodies françaises, encore, de Gounod, Liszt et Duparc. Vous pouvez réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.opera.toulouse.fr. Et toujours ce dimanche 19, mais le matin à 11h à la Halle au Grain, l'Orchestre du Capitole donne un concert jeune public autour de Ma mère loi de Maurice Ravel, œuvre sur laquelle Élodie Fondacci a écrit une histoire qu'elle va lire elle-même puisqu'elle officiera en tant que récitante. L'orchestre est dirigé par Lucie Leguet. Réservation et billetterie en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir réalisé cette émission. Podcast disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci à nos auditeurs pour leur fidélité à notre écoute. Très bonne semaine musicale à tous.